Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, émission résolument euro-optimiste en ce début d'année 2019. Quelles sont les bonnes solutions exemplaires chez nos voisins, qu'il s'agisse de logement, de transport, de santé ou d'éducation? Et à quelques mois des élections européennes, l'UE peut-elle encore nous inspirer? Et on commencera par un modèle méconnu, celui de Vienne, la capitale autrichienne. Il est vrai qu'on a davantage parlé dernièrement de la coalition conservateur-populiste au pouvoir dans le pays, mais il faut savoir que Vienne brille pour bien autre chose, pour la faiblesse de ses loyers. En moyenne, 10 euros le mètre carré contre 26 à Paris, et ce grâce à l'intervention des pouvoirs publics. Reportage sur place de Céline Béal.
Au terminus de la ligne 6 du métro, les immenses tours d'Alterla sont bien connues à Vienne, avec leurs terrasses pleines de plantes. Elles abritent 9000 locataires. C'est une véritable ville dans la ville, avec un centre commercial, des écoles et surtout, en tout, 7 piscines sur les toits des bâtiments. Sans parler des saunas en libre accès. Pourtant, Alterla est un ensemble à loyer modéré. Gottfried Patschik est enseignant à la retraite. Avec sa femme, il occupe un 4 pièces au 21e étage avec une vue imprenable sur la ville.
J'ai 107 mètres carrés avec la terrasse et je paye 850 euros.
Ces 850 euros incluent même le chauffage.
J'aime vivre ici parce que le métro est à côté. On est tout de suite partout et on n'a pas besoin de voiture. Il y a des commerces. Il faut 5 minutes pour aller à la rue commerçante de Meidling et 10 minutes pour la gare de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus?
Alterla est un grand ensemble exemplaire du secteur locatif le plus dynamique ici, celui de la propriété coopérative. Dans ce système, des coopératives d'habitation reçoivent des terrains gratuits de la part de la municipalité. En retour, elles doivent y construire des logements abordables. Ce système est l'une des formes de l'intervention publique dans l'immobilier viennois. Il y en a bien d'autres. Plus proche du centre de Vienne, Sébastien Steiner vit avec sa copine dans un 45 mètres carrés, un beau duplex avec balcon. Il paye 700 euros par mois, pas un souci pour ce consultant informatique. Là aussi, c'est un loyer plafonné. Le propriétaire de l'immeuble loue certains de ses appartements moins chers pour pouvoir toucher certaines subventions publiques. Elles lui ont permis de construire des étages supplémentaires sur son immeuble. Une aubaine pour Sébastien.
J'avais visité avant celui-là plusieurs appartements non subventionnés et ils avaient un moins bon rapport qualité-prix. Soit à cause de leur emplacement, soit c'était dans de vieux immeubles qui n'étaient plus en très bon état. Ici, cela m'a tout de suite plu que ce soit un logement neuf. Ils venaient d'ajouter des étages sur le toit d'un vieil immeuble. Le parquet était neuf. Tout était propre. Je n'avais jamais vu cela avant.
Deux tiers des Viennois vivent dans des appartements subventionnés d'une manière ou d'une autre, comme Sébastien et Gottfried, ou alors dans des appartements appartenant directement à la municipalité. Tous ces types de logements sont soumis, pour leur attribution, à des critères sociaux.
Ce qui modère les loyers à Vienne, c'est le logement social.
Yvonne Franz, spécialiste des villes à l'Institut de géographie de l'Université de Vienne.
Cela comprend les logements qui appartiennent à la ville et les logements en coopérative. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a en Autriche une loi locative qui régule les loyers dans les immeubles construits avant 1945.
Résultat, le prix moyen du mètre carré pour une location à Vienne n'atteint pas les 10 euros, contre 26 à Paris ou même 17 à Copenhague. Et la politique d'attribution des logements sociaux est très souple.
L'idée de Vienne, c'est de vouloir garder une mixité sociale, que ces logements soient attractifs pour les classes moyennes comme pour les faibles revenus.
Cependant, cette politique, commencée dans les années 20 par la mairie social-démocrate, est devenue plus difficile à tenir. La population est en effet en pleine expansion. Les listes d'attente s'allongent pour les logements sociaux et certains se retrouvent sur le carreau. Judith Bruckner vient d'emménager. 47 mètres carrés à 560 euros. L'appartement n'est plus tout neuf et un peu sombre, mais elle est contente de l'avoir trouvé. La jeune technicienne du génie civil n'a pas eu droit à un appartement subventionné. Elle remplissait les conditions de revenus, mais pour être éligible, il faut en outre résider depuis au moins 2 ans à Vienne et à la même adresse. Cela exclut les nouveaux migrants, mais aussi certains Viennois de naissance, comme Judith, qui a beaucoup changé d'adresse.
En réalité, c'est très habituel, surtout quand on est jeune. On déménage beaucoup, on part de chez ses parents, on va dans une colocation, puis chez son copain. C'est pour ça que je trouve ce critère un peu discutable.
Encore au milieu des cartons, la jeune femme s'applique à arranger son intérieur, tout en sachant qu'elle ne compte pas rester toute sa vie dans ce nouveau chez-soi. Moins de 10 ans, dit-elle. Le temps de chercher tranquillement un autre logement, subventionné cette fois.
On parle de miracle finlandais. Ce pays scandinave d'un peu plus de 5 millions d'habitants se trouve en haut de la liste pour une réussite, celle de son système éducatif, à tel point qu'Helsinki est devenue une destination phare du tourisme scolaire. Oui, les touristes scolaires, ces experts politiques, enseignants, chercheurs qui veulent comprendre, trouver la clé pour bâtir le meilleur système scolaire du monde. Les explications d'Anne-Françoise Hiver.
D'abord, ce n'est pas une question d'argent. Le budget consacré à l'éducation dans ce petit pays d'Europe du Nord n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Ce n'est pas non plus le nombre d'heures de cours, 6 000 en moyenne par an. Alors quoi ? Eh bien d'abord, l'unité du système. Il n'y a pas d'école privée en Finlande, mis à part quelques établissements internationaux où l'enseignement se fait en langue étrangère. Le reste, ce sont des établissements publics, l'école du quartier où les enfants sont placés d'office. Partout, les mêmes matières, la même pédagogie de 7 à 16 ans, un tronc commun qui mêle enseignement classique et pratique, avec une belle part au dessin, à la technologie, au sport, et puis un accent sur le travail collectif. Résultat, la Finlande est un des pays où les écarts de niveau entre élèves sont les moins élevés. L'école est évidemment gratuite, même le repas servi à midi, idem pour les manuels scolaires, le matériel utilisé en classe. Les petits Finlandais en difficulté ne redoublent pas, on leur propose du soutien à l'école, des cours adaptés en fonction de leurs besoins, un enseignement sur mesure tout en l'intégrant au programme général. Pas non plus de notes avant 12 ans, seulement des appréciations générales, très peu de devoirs à la maison. On laisse aux petits Finlandais le temps de vivre, de se développer. En Finlande, par ailleurs, pas de pénurie de profs. Le métier d'enseignant y est respecté et correctement rémunéré. Les études pour y parvenir sont longues et mêlent la théorie à la pratique. Dans les années 70, elles ont été transférées à l'université. Dans sa classe, le prof dispose de beaucoup d'autonomie pour ajuster ses cours en fonction des besoins des élèves. Le hic, cependant, en 2012, le pays passe de la première à la 12e place dans le classement PISA. Les enseignants s'interrogent, auraient-ils passé trop de temps à expliquer le modèle finlandais au lieu de s'y consacrer ? Recentrage tout depuis sur le contenu pédagogique en s'inspirant des dernières recherches en la matière.
Et les Néerlandais seront peut-être les premiers surpris, mais les Pays-Bas figurent en tête des classements internationaux pour leur système de santé qui garantit un très bon accès aux soins, notamment grâce au rôle central que joue le médecin généraliste. Mais derrière les études se cachent d'autres chiffres qui alimentent une vraie préoccupation des patients. Les mutuelles obligatoires sont hors de prix et une franchise annuelle de près de 400 euros effraie les plus fragiles. Reportage à La Haye, signé Antoine Moutou.
Dans le centre de La Haye, à la sortie de l'hôpital Vesteinde, Barbara, 67 ans, s'apprête à reprendre la route pour Breda, à 80 km d'ici. Cette infirmière à la retraite vient de rendre visite à sa sœur malade.
Ma sœur est très contente de l'attention et des soins qui lui sont portés dans cet hôpital.
En général, Barbara est assez satisfaite du système de santé des Pays-Bas.
Je crois bien que nous avons aux Pays-Bas un meilleur système de santé que dans d'autres pays. C'est vrai, nos cotisations sont très élevées, mais la contrepartie, c'est que nous sommes bien soignés.
Chaque mois, comme de très nombreux Néerlandais, Barbara doit débourser une somme importante pour la mutuelle obligatoire, environ 140 euros, à laquelle s'ajoute une franchise annuelle de 385 euros, c'est-à-dire que tous ces premiers 385 euros de frais médicaux de l'année, hors visite de routine chez le médecin traitant, ne lui seront pas remboursés. Selon elle, c'est la faute des assureurs du pays qui gèrent désormais une grande partie du système de santé.
Les assureurs ont vraiment une grande partie du gâteau. Je trouve qu'ils pourraient fournir de meilleurs services avec tout l'argent de nos cotisations.
Marijke, 50 ans, sort elle aussi de l'hôpital Westeinde. Elle a rendu visite à un ami. Selon elle, les cotisations et la franchise très élevées sont un véritable problème aux Pays-Bas.
Personnellement, je n'en souffre pas. Mais je peux bien m'imaginer que des personnes avec un petit budget finissent par ne plus aller chez le médecin.
Même s'il est très bien coté dans les classements internationaux, le système de santé actuel fait beaucoup débat aux Pays-Bas. Selon un sondage mené fin 2017, 2/3 des Néerlandais sont pour la suppression de la franchise annuelle de 385 euros. Une demande dont se sont saisis le parti d'extrême droite de Geert Wilders et de la gauche radicale du Socialistische Partei. Et récemment, même des députés de la majorité au pouvoir s'en sont inquiétés après avoir appris que des femmes victimes de viols ont préféré ne pas se rendre dans des centres de soins spécialisés par peur de devoir régler elles-mêmes les frais médicaux. Patrick Eirisson est professeur à l'université Radboud de Nijmegen. Il est spécialiste de l'économie du système de santé et travaille régulièrement en tant que conseiller pour le gouvernement. Il réfute l'idée selon laquelle de nombreux Néerlandais refuseraient désormais d'aller se faire soigner.
Ça arrive très certainement, de temps en temps, mais selon plusieurs études sur le sujet, le passage soudain, en 2013, de la franchise de 285 à 385 euros n'a pas eu un grand impact. On constate seulement qu'une petite partie des patients explique avoir des difficultés à régler leurs factures.
Pour Patrick Eirisson, les classements internationaux ont raison. Les Pays-Bas ont bel et bien l'un des systèmes de santé les plus efficaces d'Europe.
Ce que l'on constate en général, c'est que l'accès aux soins aux Pays-Bas est très bon. Chaque Néerlandais a un médecin traitant. Et ces médecins traitants sont très actifs dans la prévention et le dépistage.
Autre point fort du système de santé néerlandais, selon Patrick Eirisson, les médecins prescrivent peu de médicaments jugés inutiles. Les Néerlandais eux-mêmes, dit-il, sont de toute façon peu friands de médicaments.
Et pour ce tour d'une Europe rêvée, on poursuit à Tallinn en Estonie. Voilà 6 ans que les transports publics sont gratuits sur les bords de la Baltique. Un vrai succès qui a fait des émules puisque depuis l'été dernier, presque toutes les villes sont désormais sous le régime de la gratuité. Petit bilan avec Marielle Vitureau.
En 2013, les sceptiques étaient nombreux. Rendre les transports gratuits, ce n'est rien qu'un beau coup de communication politique d'Edgar Savisaar, alors maire de Tallinn, pouvait-on entendre. Le maire ne cherche qu'à séduire ses électeurs, les russophones parmi les plus pauvres de la capitale estonienne, pour se faire réélire. Mais 6 ans après l'introduction de la gratuité, il serait impensable aujourd'hui de faire marche arrière. Pour financer cette décision, Tallinn a bénéficié d'une hausse du nombre de résidents, officiellement enregistrés dans la capitale. Ils sont passés de 416 000 à 452 000. Certes, ils bénéficient du transport gratuit, mais grâce à leurs impôts, le budget de la ville a augmenté de 30 millions d'euros, soit 2 fois plus que les revenus tirés de la vente des tickets et des abonnements. Il y a 6 ans, seuls 8% des usagers payaient plein tarif. Les spécialistes craignaient aussi que la gratuité ne mette le réseau à l'épreuve, faute de financement. Là encore, une crainte infondée. Depuis 2017, une ligne de tramway a été prolongée jusqu'à l'aéroport à 5 kilomètres du centre. L'un des arguments de la mairie en faveur de la gratuité concernait la diminution de la circulation automobile, mais c'est bien là où le bât blesse. La circulation n'a en fait diminué que de très peu, car le parc automobile augmente de 5% chaque année, selon les chiffres de la mairie Tallinn. L'Estonie a décidé de poursuivre sur cette voie. Depuis juillet dernier, 11 des 15 régions sont passées elles aussi au transport public gratuit, une mesure pour lutter contre la désertification rurale et essayer de contenir la consommation des énergies fossiles. L'Estonie a pour but de consommer autant en 2030 qu'en 2012.
Et on terminera ce vaste tour d'horizon avec l'Union européenne. Difficile de garder un optimisme béat alors que les populismes gagnent du terrain et que le Royaume-Uni s'apprête à quitter le navire. Mais comme c'est l'heure des bonnes résolutions, on va donc regarder dans la bonne direction. Bonjour Ève Minot.
Bonjour Frédéric.
Vous nous faites un petit bilan des bonnes nouvelles de 2018 et de celles qui s'annoncent en 2019.
Et je vous propose de commencer par un anniversaire, puisque hier, l'euro, la monnaie unique, a eu 20 ans. Le 1er janvier 1999, en effet, 11 pays européens décidaient d'adopter l'euro. Il s'agissait de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et enfin les Pays-Bas et le Portugal. La monnaie a d'abord fait une entrée virtuelle dans la vie des banques européennes avant de rejoindre les portefeuilles des ménages européens. Ça, c'était en 2002. L'euro fait désormais partie aujourd'hui du quotidien de près de 440 millions de citoyens européens appartenant à 19 pays. 20 ans plus tard, l'euro est donc toujours là et a rempli en partie ses objectifs.
Et alors, quel regard portent les Européens sur leur monnaie ?
Bien, regard plutôt positif, même si l'euro fait encore souvent office de bouc émissaire pour expliquer les difficultés économiques de certains pays, notamment en France et en Italie. La plupart des usagers y sont attachés et n'ont pas envie d'en sortir, selon les derniers sondages menés par la Commission européenne. Déjà, la monnaie unique a permis de mettre un terme à la guerre des monnaies que se livraient les pays voisins et qui encourageait l'inflation. Mais surtout, elle a permis, selon les experts, de surmonter la plus grave crise économique depuis 1930, en 2008. Aujourd'hui, l'euro est un facteur de stabilité financière pour la région et a gagné ses galons de monnaie incontournables sur le plan international, juste derrière le dollar.
Mais aussi de sérieux bémols, Ève, sur cet euro et cette zone euro qui fonctionne mal.
Oui, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que la monnaie unique n'a pas su mettre en place les outils qui auraient permis d'aider les pays en difficulté, comme la Grèce, par exemple, après la crise de 2008. Sans politique commune, sans budget commun, les États n'ont pas réussi à faire de l'euro un outil qui protège les plus faibles. Tout le monde a dû appliquer les mêmes règles budgétaires dans son propre pays, avec les conséquences que l'on connaît sur la rigueur et sur l'austérité. Pour permettre cela, il faudrait aller vers plus d'Europe, et donc plus de confiance entre les pays, notamment entre le Nord et le Sud. Plus de confiance, donc plus d'optimisme. Retour au point de départ.
Retrouvons la confiance donc, Ève, en faisant le tour des choses qui fonctionnent aujourd'hui en Europe et qui donnent de l'espoir pour demain.
Oui, l'Europe a su prouver cette année qu'elle était capable de se positionner en leader sur des sujets qui revêtent aujourd'hui pour les citoyens une importance majeure. Comme par exemple l'interdiction des plastiques à usage unique, décidée en cette fin d'année et qui entrera en vigueur en 2021. C'est véritablement une victoire pour les environnementalistes, mais surtout pour les océans et leur biodiversité, quand on sait que ces plastiques constituent près de 80% des déchets que l'on retrouve sur les plages européennes chaque année.
Autre avancée cette année dans le domaine du numérique cette fois.
Oui, l'Union européenne a osé affronter aussi les GAFA, les géants américains du net, que sont Amazon, Apple, Facebook ou Google, en leur imposant une législation plus stricte sur le traitement de nos données personnelles. C'est un sujet qui concerne là encore des millions de citoyens au quotidien et le bras de fer n'est pas terminé puisque d'autres dossiers numériques attendent les eurodéputés cette année après l'échec en décembre de l'aboutissement de la fameuse taxe GAFA, vous savez, qui visait à harmoniser les politiques fiscales européennes et taxer plus lourdement ces entreprises du numérique qui paient aujourd'hui en moyenne deux fois moins d'impôts que les autres entreprises en Europe.
Et pour ceux qui se demandent ce que l'Europe fait pour eux au quotidien, justement, le Parlement européen a lancé un nouveau site internet.
What Europe does for me, ce que l'Europe fait pour moi. Région par région, vous pourrez ainsi voir tout ce que l'Europe finance autour de vous. La construction de bâtiments, la rénovation de quartiers, le financement d'écoles d'art, la préservation d'espaces en danger. Autant de raisons de s'intéresser à ce que l'Europe permet de financer, ce qu'elle peut faire pour vous et les sujets qu'elle fait avancer. À quelques mois des élections européennes, ce sera le 26 mai prochain.
Merci Ève Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Mathias Taylor. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux et bien sûr toujours à l'écoute de RFI.